Clément Mihirassa, bonjour.
Bonjour.
Le Premier ministre annonce que le déblocage de la deuxième tranche de financement du FMI pour votre pays est en bonne voie. Est-ce que vous vous en réjouissez ?
On ne peut pas s'en réjouir parce que le Congo va mal, très mal. Le gouvernement a signé un programme avec le Fonds monétaire le 11 juillet 2019 et c'est curieux, et 6 mois après, ils n'ont pas pu respecter les engagements qui ont été pris et depuis 2019 jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule tranche qui a été débloquée.
Le FMI reproche à votre pays d'être trop endetté, mais justement, la dette est en train de baisser, dit le Premier ministre. Elle est passée en dessous des 100% du PIB.
Ça nous fait sourire parce qu'en 2010, le Congo atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays Pauvres Très Endettés qui avait permis de ramener cette dette à près de 25% du produit intérieur brut. Et ça avait ouvert la voie à de très belles perspectives du développement du Congo. Et les Congolais ont été surpris en dépit de l'embellie financière qui a permis à ce pays pendant près de 10 ans d'engranger près de 30 000 milliards de francs CFA de se retrouver avec une dette abyssale qui ne s'explique pas du tout. Et lorsque le Premier ministre dit que ça baisse, mais il faut reconnaître déjà qu'elle est supérieure à la norme communautaire qui est de 70%. Et ensuite, elle est véritablement énorme et les Congolais n'en comprennent véritablement pas l'origine. C'est un véritable problème qui a plongé le pays dans cette crise que nous connaissons et que nous vivons actuellement.
Et si la Chine et les traders pétroliers acceptent de rééchelonner la dette, est-ce que celle-ci ne va pas baisser tout de même ?
Celle-ci va baisser, mais le problème, la crainte, même si on négocie avec la Chine et avec les traders, c'est que ça reprenne dans l'impunité totale. Parce que vous savez bien, et RFI avait bien révélé ça, qu'il y a eu un problème de dette cachée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mauvaise gouvernance, ça veut dire manque de transparence que l'on connaît maintenant.
Vous parlez mauvaise gouvernance. Pour répondre aux attentes du FMI, le Premier ministre annonce une réforme de la loi anticorruption. Est-ce que ce n'est pas un point positif ?
Ça me fait sourire. Mais sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, les dossiers sont extrêmement nombreux. Parler de la loi, etc., c'est des tergiversations. Lamir Nguele, en tant que président de la Commission nationale de lutte contre la corruption, a mis au point un certain nombre de dossiers qui ne demandaient qu'à être transmis au niveau de la justice. Parmi les personnes mises en cause, il y en a qui sont au gouvernement. Alors qu'on ne nous dise pas que c'est la loi. Et il faut qu'il explique pourquoi maintenant, le Congo n'arrive pratiquement plus à lutter et à s'attaquer à ces problèmes-là. Et aujourd'hui, les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers au Congo, ils sont en liberté, ils ne sont pas inquiétés et on ne se soucie pas de la souffrance du peuple congolais.
Il y a tout de même la mise en place de cette haute autorité de lutte contre la corruption avec à sa tête des personnalités qui sont recrutées sur appel à candidature.
Mais ce n'est pas les structures qui manquent au Congo pour mener la lutte contre la corruption. Nous avons des organes de contrôle, nous avons l'inspection générale d'État, nous avons l'inspection générale des finances. Les scandales, ils sont connus. Je vous prends un exemple, M. Boisbouvier. Vous savez, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré en 2006, devant le Parlement réuni en congrès, que nous dégagions des excédents et que ces excédents étaient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et qu'aucun franc ne serait retiré sans loi rectificative. Il avait pris l'engagement qu'un audit de ce compte serait fait chaque année et rendu public. De 2006 à 2021, il y a 15 ans où il n'y a aucun audit qui a été réalisé.
À propos de la corruption, beaucoup protestent contre l'entrée au gouvernement de Denis Christelle Sassou Nguesso, le fils du chef de l'État, car il est pointé notamment par Global Witness. Mais le Premier ministre réplique qu'il n'y a aucune procédure judiciaire contre Denis Christelle Sassou Nguesso. Est-ce qu'il n'a pas raison ?
Mais qui doit lancer la procédure judiciaire ? Je ne veux pas épingler de façon particulière le fils du président, mais il faut reconnaître que le fils du président est baigné dans beaucoup de dossiers sulfureux. Je vous en cite un. Monde Afrique a révélé en mai 2018 que les Panama Papers avaient publié une liste de 6 Congolais. Je sais que le fils du président fait partie, qui détiennent dans les paradis fiscaux 5 500 milliards de francs CFA. Est-ce qu'un pays en crise comme le Congo peut rester silencieux devant une telle information ? Il faut ouvrir une information et vous savez bien que, s'agissant du fils du président, je n'ai pas une attention particulière sur lui. Mais présentement, il y a un dossier aux États-Unis sur un appartement à Miami ou je ne sais quoi. L'étude qui a été publiée par Global Witness, il y a des révélations extrêmement troublantes. Prenez l'exemple de l'Arabie Saoudite. L'Arabie saoudite a monté une purge anti-corruption et en 2 ans, de 2017 à 2019, 93 milliards d'euros ont pu être récupérés. L'Angola à côté de nous, en 2019, rien que dans la lutte anti-corruption, a récupéré 5 milliards de dollars. Comment vous expliquez qu'au Congo, même quand on fait le budget, la loi rectificative des finances 2021, il n'y a aucune ligne où on peut penser qu'on peut récupérer de l'argent à partir de la corruption? Les dossiers, ils sont connus.
Quand on demande aux autorités si l'entrée de Denis Christelle Sassou Nguesso au gouvernement est une façon de le mettre en piste pour une prochaine élection présidentielle, celles-ci répondent, après tout, c'est un citoyen comme un autre, on ne peut rien préjuger pour l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, de ce point de vue, ils ont raison, c'est un citoyen comme tous les autres, sauf que nul n'est au-dessus de la loi. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir à la tête de ce pays, coup d'État ou quoi, ben quelqu'un sur qui pèse de gros soupçons. Moi, je suis d'accord pour qu'on dise que c'est un citoyen comme tous les autres, mais j'ajoute, s'il y a des dossiers qui pèsent sur lui, il doit passer à la justice et il doit en répondre comme tous les autres Congolais. Donc voilà un peu mon point de vue là-dessus.
Oui, le président Sassou Nguesso cumule 37 ans de pouvoir, mais c'est une bonne chose pour le Congo car il faut un homme d'expérience pour affronter les crises actuelles, dit le Premier ministre.
Mais malheureusement, le Premier ministre ne dit pas qu'au bout de 37 ans de pouvoir, le président Sassou a plongé le pays dans une crise indescriptible. Aujourd'hui, les retraités sont à pratiquement 3 ans de retard de pension. Les étudiants, les boursiers, ils ont pratiquement 3 ans d'arriéré de bourse. Les services sociaux ne marchent pas. Non, je crois qu'il y a un problème de conservation du pouvoir parce que les gouvernants ont peur de rendre compte. On a souvent dit que le président Sassou devait faire le choix de sortir par la grande porte. Et malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que le pays est dans une crise indescriptible.
Voilà 5 ans que vos camarades d'opposition Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa sont en prison, mais on arrivera un jour à ce qu'ils recouvrent leur liberté, affirme le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso.
Oui, moi je dois dire une chose, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa sont 2 prisonniers politiques. Ils ont été 2 candidats à l'élection présidentielle de 2016 et ils n'en ont jamais reconnu les résultats. Et je peux vous rappeler que dans une interview qu'il a accordée à RFI, le président Guy Brice Parfait Kolela, que Dieu ait son âme, avait clairement déclaré qu'en 2016, c'est Jean-Marie Michel Mokoko et lui qui devait aller au 2e tour. Mais vous savez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au Poule et ce que l'on reproche à Jean-Marie Michel Mokoko, je ne sais pas s'il y a une commune mesure. Mais j'ajoute ceci. En 2018, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a bien reconnu que la détention de Jean-Marie Michel Mokoko et de André Okombi-Salissa était arbitraire et a appelé les autorités congolaises à leur remise en liberté immédiate. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi on parle d'acte de contrition, parce que la seule faute qu'ils peuvent se reconnaître, c'est d'avoir été candidats, c'est d'avoir eu les résultats qu'ils ont eus, et je ne crois pas que ça devrait les amener à faire un acte de contrition, parce qu'ils ne se reprochent absolument rien.
La petite phrase du Premier ministre disant qu'on arrivera un jour à ce qu'ils recouvrent leur liberté, est-ce pour vous un signe d'ouverture ou pas?
Non, je ne crois pas, parce que s'il y avait ouverture, l'ouverture devrait être faite. Pourquoi le régime du président Sassou a pu prendre des mesures de réconciliation, d'apaisement à l'endroit du pasteur Ntoumi et pourquoi il ne les prendrait pas à l'endroit de Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi-Salissa? Et nous osons espérer que le gouvernement accordera une attention particulière à cette situation et qu'on trouvera bien une situation à cela.
Clément Mierassa, merci.